France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Ce sont les derniers jours de campagne électorale et les Israéliens y prêtent à peine attention. Pour la troisième fois en un an, ils vont devoir voter pour tenter de départager le bloc de droite du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou et le bloc, disons, de centre-gauche de l'ex-général Gantz. Entre Bibi et Benny, la proportionnelle intégrale permettra sans doute encore une fois à la fraction ultranationaliste d'Avigdor Lieberman de jouer à l'arbitre. Mais les législatives du 2 mars prochain s'inscrivent dans un contexte singulier. 15 jours plus tard, le 17 mars, Netanyahou doit comparaître devant la justice pour corruption, fraude et abus de confiance. C'est la première fois qu'un Premier ministre en exercice est ainsi inculpé en Israël. Son score dans les urnes va-t-il en souffrir? On se souvient aussi qu'il y a près d'un mois, rayonnant, Netanyahou obtenait de son ami Donald Trump le « deal du siècle », selon leur expression commune. Un deal qui prévoit l'annexion des colonies de Cisjordanie et de la vallée du Jourdain. Washington l'empêche pourtant de passer à l'acte avant les élections et l'appareil sécuritaire israélien n'est guère enthousiaste. Les résultats vont-ils s'en ressentir dans les urnes ? À peine soutenu par des régimes arabes lassés par la cause palestinienne et préoccupés par l'Iran, l'OLP paraît impuissante, la Jordanie laissée pour compte. Faut-il craindre de nouvelles flambées de violence ? Pourquoi aussi une telle impuissance du côté de l'ONU comme de l'Union européenne ? C'est ce que nous allons explorer ce matin, grâce à vous, Rob Mallet. Merci mille fois d'être avec nous par téléphone. Vous dirigez Crisis Group après avoir été membre du Conseil national de sécurité américain sous la présidence Obama. À Paris, avec moi en studio, Sami Cohen. Bonjour, vous êtes directeur de recherche au CERI. À Tel Aviv, Denis Charby, bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Open University à Tel Aviv. Jacques Bendelak, économiste, chercheur en sciences sociales à Jérusalem. Et nous espérons pouvoir joindre Sarah Daoud, qui est une jeune chercheuse aux séries de Sciences Po, qui est en ce moment au Caire et qui travaille sur les formations politiques palestinienne. Denis Charby, racontez-nous l'ambiance, vue d'Europe évidemment, voire Israël, c'est-à-dire quoi, 9 millions d'habitants, une démocratie parlementaire qui semble s'enrayer, puisque c'est quand même la troisième fois depuis avril de l'année dernière que vous allez devoir aller voter le 2 mars.
Oui, effectivement, nous assistons à la campagne la plus morne à laquelle moi il m'a été donné d'assister depuis que je suis en Israël en 1974. Donc ça fait beaucoup de campagnes électorales et là véritablement aucun des partis politiques, aucun des blocs n'est capable de susciter de l'intérêt, de l'attention. Alors je dirais d'abord et avant tout parce que c'est le troisième tour, comme vous l'avez rappelé, et que j'ai envie de dire employer cette formule, trop de démocratie tue la démocratie, c'est-à-dire que le suffrage universel c'est bien, mais si on vote tous les 4 ans ou tous les 3 ans, comme ça arrivait souvent en Israël, mais là 3 fois en un an, le résultat est très clair, c'est que la parole politique elle peine à convaincre, elle s'épuise tout simplement parce qu'elle est répétitive, les mêmes accusations, les mêmes craintes, les mêmes insultes de part et d'autre, on a déjà tout dit. Et donc du coup, même la presse n'arrive pas à attirer l'attention, même les programmes radiophoniques du matin renoncent à interviewer des hommes politiques parce que on en a effectivement la nausée et que je dirais que c'est un discours politique trop stratégique, trop calculé, trop calculateur, et qui inspire bien sûr aux électeurs le sentiment que voilà, tout ça c'est pour la galerie ou bien pour attirer les indécis s'il en reste encore. Les jeux sont faits, ils ont déjà été faits deux fois, ils vont l'être une troisième fois, et d'ailleurs tout le monde parle d'un quatrième tour des élections. Si, et c'est peut-être là le paradoxe le plus intéressant peut-être dans cette campagne, encore une fois, plutôt morne, tout cela vient de ce que les partis politiques, les leaders des partis politiques tiennent leurs promesses. Gantz dit qu'il ne siégera jamais avec Netanyahou inculpé. S'il reste fidèle à sa promesse, nous allons vers le blocage. Lieberman ne entend vouloir faire un gouvernement d'union nationale et pas un gouvernement d'union de majorité étroite. S'il tient encore sa promesse, on va vers le blocage. Et si Netanyahou s'obstine à rester Premier ministre, alors qu'une coalition Likoud bleu-blanc pourrait être facilement établie, et bien là aussi, on va de nouveau vers un blocage et donc vers la perspective d'un quatrième tour.
Donc il faut une majorité de 61 sièges. Le Likoud, donc le parti du Premier ministre sortant, reste très solidaire de Netanyahou. Il y a eu des primaires, je crois, en décembre, gagnées par Netanyahou, alors qu'il n'avait jamais obtenu que 32 sièges, je crois, aux élections précédentes. Donc, en fait, entre lui et l'ex-général Gantz, ils essayent quoi ? De grignoter à la marge, aux marges du centre, si j'ose dire.
Non. Ce qu'il fait, en fait, c'est comme ça qu'il l'a annoncé, et on le voit d'ailleurs dans le calendrier de campagne très active qu'il est en train de mener, c'est de mobiliser ses électeurs qui l'ont un petit peu boudé ces dernières années, qui ont un peu le sentiment que, voilà, trop, c'est trop. Ça fait quand même 10 ans qu'il est Premier ministre sortant. Et donc, voilà, c'est ces électeurs-là qui ne se sont pas assez mobilisés, notamment dans les villes de périphérie, dans les villes de développement, qu'il va aller chercher en multipliant, je crois qu'il a une dizaine de meetings qu'il va mener dans les 15 derniers jours, pour essayer donc de mobiliser d'anciens électeurs de Likoud, mais qui, pour des raisons politiques, culturelles, idéologiques, n'entendent pas non plus se déplacer pour aller voter bleu-blanc. Donc voilà, on essaye de mobiliser ses propres électeurs devenus un peu plus indifférents et un peu sur la touche. Personne ne croit aujourd'hui capable, ni Netanyahou ni Gantz, de ramener des voix de l'autre camp. Voilà, ça c'est quelque chose auquel les deux ont renoncé, parce qu'encore une fois, au bout de 3 élections, alors soit, il se peut, hein, ça aussi c'est une dimension qu'il faut avoir à l'esprit, soit des électeurs décident que trop c'est trop et ils n'iront pas voter, ouais. Et donc si l'abstention est plus forte et qu'elle est politiquement inégalement distribué parmi les différents partis politiques, alors on pourrait avoir un résultat un peu inattendu, mais de manière, voilà, en principe, les Israéliens sont des citoyens, on va dire, dociles, et ils iront voter parce qu'ils ont le sentiment qu'ils doivent accomplir leur devoir de citoyen, mais voilà, mais on attend quand même, là aussi, le climat qu'il fera, s'il pleut à verse, il est fort probable que l'abstention soit plus forte. Voilà, oui. Où on en est aujourd'hui dans les états-majors politiques.
Sami Cohen, donc, Denis Charbit parle déjà d'un quatrième tour possible. Et en fait, on se rend compte que entre les deux candidats, la ligne de partage est extrêmement floue, d'autant que Benny Gantz, donc le parti blanc-bleu, se refuse à capitaliser sur une réserve de voix qui sont celles des Arabes israéliens.
Oui, c'est tout à fait vrai. L'absence de clivage clair et net, elle apparaît très clairement dans l'absence de programme différencié. Benny Gantz ne présente pas une véritable alternative politique. En fait, tous les deux sont d'accord sur le principe d'accepter le plan de paix avec des nuances du côté de Benny Gantz.
Alors le plan de paix, oui. Et on va en revenir dans quelques minutes avec Rob Mallet à Washington. Donc oui. On se souvient que le 28 janvier dernier, oui. Benjamin Netanyahou rayonnant, qui s'était fait accompagner d'ailleurs de Benny Gantz, qui était quand même très malin, était aux côtés du président américain qui annonçait donc cette vision d'un plan pour régler comment dire ça poliment, le problème jamais résolu depuis les accords d'Oslo entre Israël et les Palestiniens. Néanmoins, il est intéressant, me semble-t-il, de voir que au fond, les Arabes israéliens, ça représente quel pourcentage d'électeurs? C'est considérable quand même. C'est
oui, 20% à peu près.
Donc 20%. Oui. Donc avec des partis politiques qui, eux, ne sont pas pris en compte dans le jeu entre les deux grands blocs.
Oui, oui, absolument. Non, mais je voulais juste revenir sur un point. Sur en fait, l'absence de véritables programmes alternatifs de Benny Gantz, ça c'est un premier point. On voit pas vraiment de grandes différences. Ce qui explique l'apathie de l'électeur israélien, parce qu'il se dit, voilà, comment faire la part entre blanc bonnet blanc.
Oui.
Le problème du vote des Arabes, c'est vraiment très important parce que, au fond, la question se pose comment Benny Gantz pourrait l'emporter et pourrait constituer une coalition. Parce que il ne pourrait l'emporter et constituer une coalition que s'il obtient le soutien des Arabes et s'il accepte de gouverner avec les partis politiques arabes, non pas dans les associations au gouvernement, mais en association à une coalition parlementaire. Cela étant, s'il le fait, ce sera Lieberman qui refusera de soutenir cette coalition.
Donc, il faut rappeler qui c'est. Donc, c'est le parti où il y a beaucoup
de russophones,
laïcs, oui. Donc contre l'emprise du religieux qui est devenu quand même une emprise importante en Israël, mais qui lui refuse toute espèce de lien avec.
Oui, c'est un parti très anti-arabe. Et donc Benny Gantz se retrouvera avec une majorité très courte avec les Arabes, il ne ferait que 57 députés, sans les Arabes, il ne ferait que 44 députés sans Lieberman. Donc au fond on peut dire que l'issue est assez prévisible. Il n'y a pas d'issue politique à cette élection.
Donc il n'y a pas de dynamique politique.
Non.
Tout est figé.
Oui, absolument. Non.
Alors, Rob Mallet, merci mille fois d'être avec nous par téléphone. Vous êtes à Washington. Vous suivez depuis des années les problèmes au Moyen-Orient. Je rappelle qu'avant de servir au Conseil national de sécurité auprès du président Obama, vous avez conseillé Bill Clinton précisément sur la question israélo-arabe. Quand Donald Trump annonce ce deal du siècle à la fin janvier, quels sont ses objectifs, à votre avis? C'est d'abord d'aider son ami Netanyahou à gagner enfin ces élections? Ou est-ce que c'est aussi, et c'est tout aussi important pour Trump, un moyen de satisfaire le socle des évangéliques qui est très important pour la campagne présidentielle américaine en cours?
Je crois qu'il y a trois choses. D'abord, de quoi il ne s'agit pas? Il ne s'agit pas d'un plan, et je pense que même le président Trump, certainement ses conseillers le savaient, il ne s'agit pas d'un plan qui visait à faire reprendre les négociations tout de suite avec, à la clé, dès qu'il y aurait un accord de paix. Il savait très bien, au moment de présenter le plan, que les Palestiniens, unanimement, rejeteraient un plan qui est inique, qui est injuste, on peut en revenir, mais certainement, qui ne reflète absolument pas ni les besoins, ni les aspirations palestiniennes. Donc, il ne s'agissait pas de cela. Je pense qu'il s'agissait de deux choses. Une chose à court terme et une chose à long terme. À court terme, le timing, la séquence suggérerait que le plan était destiné à aider électoralement le Premier ministre Netanyahou, qui faisait face à des problèmes à la fois légaux et politiques, puisqu'on vient de l'entendre, il n'avait pas pu gagner après deux élections. Et puis, il y avait les problèmes du président Trump, et c'était le plan était présenté en plein milieu de la procédure de destitution du président. Il y a également les intérêts électoraux, bien sûr, la frange évangélique de l'électorat républicain est mobilisé et tout à fait favorable à ce plan. Donc, il y avait ces intérêts politiques immédiats. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger l'investissement à long terme qui n'est peut-être pas du fait du président Trump, mais certainement de ses conseillers. L'ambassadeur américain en Israël, David Friedman en premier lieu, mais également Jared Kushner, le gendre du président Trump, pour lesquels ce plan représente leur vision de l'avenir israélo-palestinien. C'est-à-dire une vision dans laquelle les Palestiniens doivent avouer qu'ils ont perdu. Ils ont perdu depuis 1948, selon l'administration américaine, à cause des erreurs multiples qu'ils ont commises, mais en tout cas qu'ils ont perdu, qu'il faut qu'ils fassent face à la réalité, qu'Israël aujourd'hui est la partie la plus forte, et que si les Palestiniens veulent vivre matériellement, économiquement, de façon plus confortable, il va falloir qu'ils se rendent à l'évidence qu'ils ont perdu, et que les aspirations qu'ils nourrissaient depuis de longues dates, un État palestinien dans les frontières de 67, avec une capitale à Jérusalem-Est, eh bien, ces aspirations étaient illusoires, et qu'il est temps pour eux de faire face à la réalité. Donc je pense que ça, c'est quand même un héritage important, mais néfaste de ce plan, qui est qu'il cherche à redessiner les contours d'une possible solution du problème israélo-palestinien, de façon qui, à mon avis, est totalement irréaliste et injuste, mais certainement c'est le point de vue américain, et ils espèrent que ça sera bientôt le point de vue d'autres pays, y compris de certains pays arabes.
Avec donc offert en quelque sorte comme des gages de bonne volonté aux Palestiniens, la reconnaissance de principe d'un État, mais d'un État gruyère qui ne contrôlerait pas ses propres frontières, et un soutien économique avec des chiffres, évidemment, 50 milliards de dollars. Donc, ça n'a pas, le moins qu'on puisse dire, on n'a pas eu l'impression au moment où le plan a été présenté que la partie américaine, que Donald Trump et son gendre eux-mêmes n'y croyaient pas. Ou en tout cas ne considéraient pas que c'était majeur.
Comme je l'ai dit, d'abord les Américains n'ont pas parlé aux Palestiniens depuis plus d'un an, donc ce plan de paix ne reflète pas la contribution palestinienne. Mais comme je l'ai dit, ils n'y croyaient plus à ce moment-là. Je pense qu'il y a un an, lorsque je parlais à certains membres de l'entourage de cette équipe, ils pensaient que peut-être ils pourraient convaincre les Palestiniens, certains Palestiniens. Je pense qu'ils se sont rendus à l'évidence que ce n'était pas possible. Mais donc, l'idée n'est pas aujourd'hui d'avoir des Israéliens et des Palestiniens accepter ce plan, mais plutôt d'essayer de forcer, simplement en disant qu'il n'y a pas d'alternative, et le message aux Palestiniens, c'est de dire, si vous refusez ce plan dans un an, deux ans, trois ans, ils ont jusqu'à quatre ans, je pense, pour l'accepter, eh bien, d'abord, ce plan sera mis en œuvre parce que les Israéliens annexeront 30% de la Cisjordanie, et contrôleront évidemment Jérusalem-Est, et la prochaine fois que vous viendrez à la table de négociation, ce qu'on vous offrira sera bien pire encore. Et donc, je pense que mon message, c'est vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas des Palestiniens. Nous, on continue à avancer. Tout ou tard, vous allez devoir vous rendre à l'évidence que vous avez perdu et qu'il va falloir abaisser vos aspirations et accepter la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Véritablement, enfin, on la constate lorsqu'on voyage en Cisjordanie, c'est une réalité.
Oui, bien sûr.
Il y a un contrôle israélien, évidemment, sur les colonies de peuplement et sur une grande partie de la Cisjordanie.
Rob, restez avec nous quelques minutes encore, si vous le voulez bien, parce que je voudrais que nous allions au Caire, ça c'est la magie de la radio, vous rejoindre. Bonjour Sarah Daoud, vous êtes chercheuse aux séries à Sciences Po, vous travaillez en ce moment au Caire sur précisément les problématiques palestiniennes et le rôle de l'Égypte entre le Fatah d'un côté et le Hamas de l'autre. Expliquez-nous d'abord, de votre point de vue, pourquoi une telle tiédeur, une telle mollesse des réactions des pays arabes à ce plan de paix, même s'il y a eu une réunion de la Ligue arabe où les discours traditionnels ont été entendus, mais on a quand même l'impression qu'il y a une immense lassitude du côté des régimes arabes par rapport à la cause palestinienne.
Oui, tout à fait. Il y a non seulement une lassitude, comme vous dites, mais par ailleurs, ça a été remarqué, et c'est assez remarquable, cette présence assez embarrassante de plusieurs représentants du Bahreïn, d'Oman et des Émirats Arabes Unis lors de la divulgation du plan à Washington. Et comme vous le disiez, effectivement, suite à cela, on constate un manque assez généralisé de réaction de la part des capitales arabes. Ce que, par ailleurs, les Palestiniens ont fortement regretté. Donc certes, il y a eu dans la foulée cette réunion de la Ligue arabe, et comme on pouvait s'y attendre, la majorité des pays arabes se rangent derrière les Palestiniens et refusent officiellement ce plan de paix. Toutefois, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ce plan de paix comporte également un volet économique qui avait été dévoilé lors de la conférence de Manama en juin dernier. Et dans ce volet économique, il y a certes donc une vision pour les Palestiniens, une vision américaine pour le développement de la gouvernance, notamment palestinienne, des infrastructures, etc. Mais cette vision concerne également la région et notamment les pays limitrophes, donc la Jordanie, le Liban et l'Égypte. Il y a certainement, et donc on voit, il y a une partie des mesures qui profitent aux pays voisins notamment. Je pense, étant donné que c'est ce qui m'intéresse surtout, je pense à l'Égypte par exemple, il y a l'idée de renforcer par exemple la commercialisation, l'échange de gaz naturel entre l'Égypte et Israël, ce qui est déjà en cours en fait. L'idée c'est que l'Égypte devienne une plateforme pour ce commerce-là et donc c'est pas un hasard si par ailleurs l'accord d'importation de gaz israélien en Égypte a été a pris effet en janvier là 2020. Donc je pense que voilà, il s'agit pas non plus de tomber dans le cynisme et de dire que les pays arabes pourraient profiter également de ce plan de paix. C'est pas si simple que ça, d'autant que il faut pas oublier que ces pays arabes sont toujours pris en étau entre les intérêts, la réelle politique, etc., et leur opinion publique qui, elle, est largement encore acquise à la cause palestinienne. Et par ailleurs, il y a quand même un exemple, il y a quand même un pays qui s'est exprimé davantage sur le sujet, c'est la Jordanie.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il y a la question de Jérusalem dans le plan de paix qui est en jeu, et la Jordanie a à cœur de rester gardien des lieux saints.
Et la Jordanie compte aujourd'hui une population à majorité d'origine palestinienne. Sarah, oui, restez en ligne avec nous, s'il vous plaît. Retournons à Washington avec vous, Rob Mallet, brièvement, de votre point de vue, en enrôlant d'une certaine manière quelques pays arabes que Sarah vient de citer, le fait aussi qu'il y a un changement de génération, on le voit avec le prince héritier saoudien qui est proche du gendre de Donald Trump, il y a une fascination qu'exerce Israël sur les régimes arabes à cause de ses succès économiques, technologiques, etc. Est-ce que Donald Trump, d'une certaine manière, réussit une victoire diplomatique par rapport à un monde arabe qui est beaucoup plus préoccupé aujourd'hui par Téhéran que par la cause palestinienne ?
Ben, je dirais oui et non. C'est vrai qu'il y a une lassitude arabe vis-à-vis de la cause palestinienne, c'est clair. Surtout parmi la nouvelle génération, comme vous l'avez indiqué, qui ne connaissent pas la question palestinienne. Il y a également une fixation sur la question iranienne. Et il y a une crainte vis-à-vis du président Trump qui s'est révélé être imprévisible et qui peut toujours au lendemain rompre des alliances. Donc chacun a un peu peur de lui. Personne ne veut vraiment l'offenser. Donc il y a eu une réaction mitigé par rapport à un plan qui franchement, il faut le dire, va tellement loin qu'on a du mal à s'imaginer il y a 3-4 ans, les pays arabes et même européens ne réagissant pas de façon beaucoup plus dure à un plan de paix qui viole tous les principes internationaux. Donc la réaction a été plus mitigée peut-être qu'elle n'aurait pu l'être, mais tout de même, aucun pays arabe ne s'est prononcé en faveur du plan. Et la véritable crainte, c'est vrai, c'est que la crainte, c'est pour la stabilité de la Jordanie, si en fait Israël annexe la vallée du Jourdain. Qu'est-ce qui va se passer pour la stabilité du royaume hachémite et on se dirige peut-être vers une nouvelle explosion si les Palestiniens, d'ici quelques temps, se soulèvent contre Israël, enfin contre la mise en œuvre de ce plan. Donc les Arabes sont un peu partagés, divisés. Je viens de rencontrer certains membres de région. Ils ne veulent pas s'opposer frontalement au président Trump, mais en même temps, ils réalisent que c'est un plan qu'ils ne peuvent pas l'accepter, en tout cas pas aujourd'hui, parce qu'il va à l'encontre de tout ce qu'ils ont dit depuis des décennies.
Merci beaucoup, Rob Mallet, d'avoir été avec nous et pour nous apporter cet éclairage donc vu de Washington. Sarah Daoud, on a vu que le Mahmoud Abbas, donc le président palestinien, 85 ans, une direction très affaiblie, il n'a jamais désigné de dauphin, ou plutôt il les a éliminés les uns après les autres. Il est allé à l'ONU il y a quelques jours, il a appelé au dialogue, il a rappelé aussi son refus du recours à la violence. Jusqu'à quel point est-ce que, paradoxalement, le plan américain contraint le Fatah de Mahmoud Abbas d'un côté et le Hamas qui tient Gaza d'une main de fer, même s'il y a aussi, d'après ce que je comprends, du djihad islamique maintenant à Gaza, jusqu'à quel point ce rapprochement est rendu plus nécessaire par le plan américain?
Oui, tout à fait. Il est extrêmement nécessaire pour les Palestiniens aujourd'hui de penser sérieusement à une réconciliation. C'est un processus qui est en cours depuis un certain nombre d'années. Depuis les accords d'Oslo, il y a une division véritablement entre Hamas et Fatah. Et il y a eu par la suite un certain nombre de tentatives de réconciliation des factions politiques palestiniennes sous égide égyptienne essentiellement. Toutes ces tentatives jusqu'ici ont échoué parce que, et même si donc la question de la divulgation du plan Trump a permis de réamorcer un peu ce processus-là, et il y a eu plusieurs initiatives, plusieurs rencontres entre les différentes factions politiques palestiniennes, pour autant, je ne m'avancerai pas quant à l'issue de ces rencontres, puisque la réconciliation pêche en raison d'un certain nombre d'obstacles qui semblent jusque-là insurmontables. Donc je le mentionnais, il y a la question du médiateur qui n'est pas tout à fait neutre dans l'histoire du médiateur égyptien, qui joue largement sur les rapports de force entre les deux factions rivales, les principaux concernés, donc Hamas et Fatah. Et par ailleurs, donc il y a aussi une question de peut-être de la part des factions politiques elles-mêmes, une certaine absence de volonté pour l'instant, et en tout cas l'absence de, ils ne sont pas prêts à renoncer chacun à leur souveraineté, leur contrôle politique sans partage, que ce soit d'un côté sur l'autorité palestinienne par Mahmoud Abbas ou à Gaza par le Hamas. Et puis il y a d'autres questions aussi assez épineuses comme la question du démantèlement de l'appareil sécuritaire du Hamas à Gaza, qui devrait permettre donc le retour de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza, ce qui est souhaité par les Égyptiens par ailleurs.
Mais le Hamas n'a pas renoncé à la résistance armée, alors que c'est ce que demande Mahmoud Abbas. Et puis il y a la question du financement. Le paradoxe, c'est qu'Israël autorise le Qatar à financer le Hamas, alors que le Fatah, lui, si j'ai bien compris, dépend davantage des fonds internationaux, même si les États-Unis ont baissé leur contribution.
Oui, la question du financement de la bande de Gaza par le Qatar, alors c'est pas tout à fait un paradoxe. En fait, ça nous renvoie aux accords qui sont passés dans le cadre des négociations d'apaisement, toujours sous égide égyptienne par ailleurs, entre la bande de Gaza et Israël. Donc le financement qatari, c'est une des composantes des différents accords qui ont été passés, et surtout depuis 2017. Il s'agit bien de rappeler quand même que l'autorité palestinienne a été sollicitée pour faire le vecteur, pour faire le vecteur, pour permettre à ces fonds d'entrer à Gaza, mm-hmm. Sauf que l'autorité palestinienne a refusé de le faire, donc les fonds passent par Israël.
Donc, là...
à chaque fois que l'ambassadeur qatarien, qui d'ailleurs était à Gaza hier, se rend à Gaza, il passe par Erez. Voilà,
et c'est encore une fois à une échelle géographique dont il faut toujours rappeler qu'elle est petite et étroite, mais grâce à vous, Sarah, merci mille fois, on voit là aussi la complexité des relations intra-palestiniennes. Denis Charby à Tel Aviv, ce plan de paix, on avait l'impression que Benjamin Netanyahou pensait qu'il allait pouvoir l'appliquer tout de suite, annexer tout de suite les colonies israéliennes de Cisjordanie, annexer tout de suite la vallée du Jourdain. Et là, Washington a dit non, on attend les élections. Et surtout, Denis, semble-t-il, l'armée, les services de renseignement israéliens ne sont pas du tout chauds pour appliquer ce plan.
Oui, alors effectivement, il y a eu d'abord, comme vous l'avez dit, un malentendu entre d'un côté l'ambassadeur américain à Jérusalem qui donnait le feu vert à une annexion immédiate pour respecter le calendrier électoral et pour que Netanyahou puisse se présenter devant les électeurs avec une annexion de la vallée du Jourdain ou de quelques implantations. Mais Yair Kouchner, plus préoccupé de l'avenir de son plan, de sa réception par les pays arabes, compte tenu justement d'une condamnation par la Ligue arabe, eh bien, a mis pédale douce et a dit que tout cela devait être réfléchi, pensé et donc reporté après les élections. Et je voudrais ajouter effectivement deux aspects intérieurs. Alors, comme vous l'avez dit également, les services de sécurité, au vu d'ailleurs de la réaction palestinienne qui jusqu'à nouvel ordre a été extrêmement douce, je dirais même d'ailleurs beaucoup moins forte que le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, l'explique en disant bah on en est qu'au stade des déclarations, au stade quelles sont les grandes lignes de ce plan. En revanche, les autorités militaires, eux, elles aussi, ont adressé un avertissement, alors par les canaux bien sûr qui s'imposent, au gouvernement en disant attention, une déclaration c'est une chose, passer aux actes en est une autre, et là pour le coup, ça pourrait de nouveau embraser le terrain. Mais j'ajouterai un troisième élément, si vous le permettez, et qui est l'impact du dévoilement du plan Trump, avec toute la cérémonie qui a eu lieu, sur justement ce rapport de force électoral. On pouvait après tout penser que, dans la mesure où, comme on l'a dit beaucoup ici, on sortait du paradigme des deux États et avec ce retour aux frontières de 1967 avec une annexion de plus de 30% de la Cisjordanie, on aurait pu s'attendre, alors sinon à un raz-de-marée en faveur de Netanyahou, mais en tout cas à une modification des rapports de force. Et je dirais que le fait que ce n'ait eu, mais strictement, aucun effet électoral montre le scepticisme de l'opinion publique israélienne qui, quand bien même on pense qu'elle a viré à droite par rapport aux années d'Oslo, c'est évident, mais en même temps ne semble pas être convaincue que tout cela soit autre chose que de la parade électorale.
Et avec même, semble-t-il, du côté de l'extrême droite, alors il faut faire attention au vocabulaire, mais donc les ultra-religieux, l'extrême droite dure, etc., la crainte qu'en fait ce plan ne sera jamais appliqué et que Netanyahou a été aidé par Donald Trump uniquement pour gagner ses élections, mais qu'en fait il n'aura pas d'annexion ni des colonies ni de la vallée du Jourdain.
Alors je pense que pour l'extrême droite ultranationaliste, la crainte est d'un autre type. C'est que là, ils sont pris au piège à leur idéologie. Qu'on le veuille ou non, quelles que soient les critiques que l'on peut adresser au plan Trump, et Dieu sait comme il le mérite, on ne peut pas ne pas nier que, sur au moins sur la question d'un État palestinien, le plan Trump dit bien qu'il y en aura un. Et alors même s'il est assorti de tant de conditions, on peut penser qu'il ne verra jamais le jour. Or, et c'est là la distinction, je dirais, entre une droite nationaliste, mais on va dire pragmatique, qui dit annexons ce qui peut être annexé, faisons ce qui peut être fait, et repoussons à plus tard, et faisons en sorte que cet État palestinien ne voit finalement jamais le jour, là où pour l'extrême droite ultranationaliste et très idéologique, il n'est pas concevable même de dire oui à un plan, puisque au final, il pose quand même la création d'un État palestinien, quand bien même il devrait être à ce moment-là, non pas sur 95 à 100% de la Cisjordanie, mais environ 2/3 seulement.
Sami Cohen, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CERI à Paris. Il y a un autre problème qu'on n'a pas encore évoqué et qui est quand même absolument sidérant dans le contexte du scrutin législatif du 2 mars prochain, c'est que le Premier ministre en exercice, le 17 mars, 15 jours après, il devra comparaître devant une cour de justice. Et ce sera au lendemain de la prestation de serment de la nouvelle Knesset. Si nouvelle Knesset il y a. Donc, et là, est-ce que c'est quand même grave les accusations dont Netanyahou fait l'objet, corruption, fraude, abus de confiance, il risque 10 ans de prison, il n'a pas obtenu l'immunité qu'il avait demandé, je crois, au Parlement, il n'y a pas eu de consensus à la Knesset. Est-ce que cela, ça a un impact sur l'électorat israélien?
Non, sur l'électorat israélien, très nettement, les lignes de front n'ont pas bougé. elles sont pratiquement les mêmes, tout simplement parce que les électeurs du Likoud sont très attachés personnellement à la figure de Netanyahou qui représente le champion de la droite dure en Israël.
Et 11 ans de pouvoir. On continue.
Voilà, il permet vraiment à la droite de rester au pouvoir. Mais par contre, il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est que par rapport au calendrier judiciaire, Netanyahou n'est pas obligé de démissionner, il peut rester au pouvoir en tant que Premier ministre, s'il est reconduit en tant que Premier ministre, tout en ayant une procédure judiciaire, tout en étant obligé de se défendre devant les tribunaux.
Ça, c'est une chose. Et ça peut prendre des années, d'ailleurs.
Ça peut prendre très longtemps parce que la procédure judiciaire est longue, les avocats vont essayer de faire durer, il va y avoir certainement un appel, et tout ça peut durer. Par contre, ce qui peut faire bouger les lignes, c'est qu'il y ait un recours à la Cour suprême pour demander si un premier ministre qui tombe sous le coup d'une inculpation judiciaire, est-ce qu'il peut constituer un gouvernement? Parce qu'il y a eu un précédent dans les années 90 où la Cour suprême avait dit qu'un ministre, un ministre n'a pas la possibilité d'exercer ses fonctions s'il est inculpé par la justice. Or, que va faire la Cour suprême si elle est saisie? Elle a déjà été saisie une première fois il y a quelques semaines.
Et qui peut la saisir?
Ça peut être tout organisme qui a une raison fondamentale de s'adresser à la Cour suprême. Ça peut être un parti politique, ça peut être une association. C'est relativement ouvert. Et donc la Cour suprême saisie une première fois il y a quelques semaines, elle a dit que elle ne voulait pas se déterminer sur cette question-là parce que la question était pour elle encore théorique, elle n'était pas pratique, et qu'il fallait reposer la question après.
Je ne vais pas faire de mauvais esprit, mais enfin le Talmud n'a pas été inventé pour rien. Je veux dire, ça est quand même d'une complexité.
Non, mais les juges sont très bons. Les juges de la Cour suprême sont très bons pour trouver des justifications pour ne pas prendre des positions
qui seraient politiques,
positions
ouvertement
sensibles
politiques
dans une époque très délicate.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine O'Krent.
Jacques Bendela, on ne vous a pas encore entendu, pardon, mais il est temps d'aborder une dimension tout à fait importante dans toute élection démocratique, et c'est bien évidemment la situation économique du pays. Je voyais avec un certain amusement que le Premier ministre sortant a dit à la dernière business conférence en décembre dernier à Jérusalem, il dit ben chez nous il peut pas y avoir de gilets jaunes parce que l'économie va tellement bien.
C'est pas exact parce qu'effectivement nous avons déjà eu des gilets jaunes, nous avons eu déjà des grandes manifestations il y a quelques années et l'économie va bien, mais ça dépend pour qui. L'économie va bien parce qu'effectivement on a une croissance très très forte, on a un chômage assez bas, on n'a pas d'inflation, donc les indicateurs sont au beau fixe. En revanche, c'est une croissance de type libéral qui bénéficie aux plus riches et qui a appauvri les plus pauvres. Et c'est comme ça depuis une bonne décennie. Et donc aujourd'hui, Israël, c'est le pays développé le plus inégalitaire en termes de revenus. C'est le pays avec un taux de pauvreté très fort. Et donc, tout ne va pas très bien. Le coût de la vie est très cher. Beaucoup d'Israéliens n'arrivent pas à finir les fins de mois parce que l'alimentation coûte cher, les logements coûtent cher. Il y a beaucoup de carences dans le système de santé, dans le système éducatif. Et donc, l'économie va bien, mais ça dépend de quel côté on le voit et ça dépend pour qui. Alors ça, c'est un problème, c'est un enjeu électoral important, la réduction des inégalités, la réduction du coût de la vie, de la pauvreté. Tout ça, ce sont des enjeux importants également pour ces prochaines élections.
Est-ce que l'opposition se sert de ces arguments-là, parle précisément de la crise du logement et de la misère qui frappe un pourcentage quand même tout à fait spectaculaire des jeunes Israéliens surtout?
Oui, alors on en parle, mais pas suffisamment. Vous savez qu'en Israël,
l'économie est souvent absente des campagnes électorales parce que l'Israélien est plus attiré vers les questions sécuritaires, de politique, que par les questions économiques et sociales. Et donc, c'est difficile de convaincre l'Israélien de voter pour des raisons ou pour des motifs économiques et sociaux qui sont importants et non pas pour des questions sécuritaires ou politiques. Et donc, bien sûr, encore une fois, cette fois-ci aussi, par contre, les partis politiques ont cette fois-ci pris soin de publier des programmes économiques très développés, mais qui ne sont que de vagues promesses, parce que on a du mal à savoir comment tout ça va être financé.
Oui, d'autant qu'il n'y a pas eu de budget voté cette année. Et ça provoque la colère des organisations religieuses qui dépendent évidemment du budget de l'État pour financer leurs écoles, etc.
Absolument. Du fait que nous avons un gouvernement intérimaire depuis une bonne année, le budget de l'État donc de 2020 n'a pas été voté. Et donc, le gouvernement, finalement, gère les affaires courantes, ne prend pas de décisions importantes, d'investissements importants. Effectivement, vous l'avez mentionné, les ultra-orthodoxes qui font partie du gouvernement monnaient leur participation contre des subventions que le gouvernement soit bien se doit de trouver, sans quoi ils perdraient leur soutien. Et ça aussi, l'Israélien ne comprend pas très bien pourquoi le gouvernement ne trouve pas d'argent pour la santé ou pour l'éducation et qu'il arrive à en trouver toujours pour accroître les subventions aux juifs ultra-orthodoxes lorsque ceci le demande. Donc ça aussi c'est un enjeu sociétal important, l'emploi, la pauvreté qui est important mais qui malheureusement ne fait pas encore partie de façon trop forte de cette campagne électorale.
Jacques Benalla, je vous interromps juste un instant pour demander à Sami Cohen que représente en fait le poids en termes de démographie, le poids des ultra-religieux, qu'est-ce que ça représente en proportion?
Les ultra-orthodoxes se forment à peu près 12% de la population. Ils ont actuellement, ils sont crédités de les deux partis de 16 sièges pour l'instant dans les sondages d'opinion.
Donc ils sont cruciaux pour Benjamin Netanyahou.
Absolument, ils sont cruciaux pour la formation de cette coalition de droite. C'est quand même un ensemble qui pèse très fort.
Mais ça, ce sont des gens qui ne travaillent pas et qui ne payent pas d'impôts.
Alors, les jeunes en grande partie ne font pas leur service militaire. Ils sont encouragés par leur rabbin à suivre des cours dans les yeshivot, mais il y a quand même une tendance au sein de la société ultra-orthodoxe, chez les jeunes, d'essayer d'avoir des formations, notamment une formation universitaire, pour aller vers le marché de travail. C'est un mouvement qu'il ne faut pas négliger, il n'est pas très important actuellement, mais c'est quand même une tendance qui commence à s'esquisser et qui doit être encouragée dans la société israélienne.
Jacques Benalla, revenons à la situation économique aussi en Cisjordanie. En fait, les colonies sont très actives. Jusqu'à quel point est-ce que dans cette partie-là, en Cisjordanie, donc, il y a une espèce de guerre commerciale, semble-t-il, entre Israël et les territoires palestiniens, ou est-ce que la dépendance économique existe dans les deux sens?
Non, la dépendance, elle est en faveur, bien sûr, d'Israël, puisque les territoires palestiniens sont largement tributaires de la bonne volonté d'Israël pour toute une série de sujets, vous l'avez dit, pour le commerce bilatéral, mais aussi pour l'emploi, pour les taxes douanières qui sont transférées aux Palestiniens. Donc la dépendance des Palestiniens vis-à-vis d'Israël est beaucoup plus forte que l'inverse. Et cette dépendance fait justement que l'économie palestinienne est très fragile, puisqu'elle dépend du bon vouloir du gouvernement israélien. Elle dépend aussi de l'aide internationale, mais qui, on le sait, a été fortement réduite ces dernières années. L'aide américaine a été presque entièrement coupée aussi aux Palestiniens. Et donc, l'autorité palestinienne, c'est un organe qui est en faillite virtuelle, qui est remise à flot de temps en temps selon la bonne volonté israélienne qui lui transfère ou pas des fonds. Mais c'est une situation qui dure depuis longtemps, mais qui, avec le temps, devient de plus en plus préoccupante. Aussi du point de vue israélien, parce que reprendre à sa charge 3 ou 4 millions de Palestiniens, c'est pas quelque chose qui va se faire facilement, mais c'est peut-être la solution, la situation à laquelle on va arriver si le problème politique ne venait pas à se trouver sa solution rapidement.
Le commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies a publié une liste de 112 entreprises internationales et israéliennes qui se livreraient, selon le droit international, à un commerce illégal à partir du moment où ces entreprises commercent ou investissent dans les colonies israéliennes en Cisjordanie. Est-ce que ça a un impact, ça, ou ça reste très théorique ?
Non, ça n'a pas un impact très important pour l'économie israélienne. C'est un coup dur pour l'image de marque, j'allais dire, d'Israël, parce que ça arrive un petit peu à un mauvais moment. Mais du point de vue de son économie, ça n'aura pas un impact très important. Vous savez, Israël est né dans le boycott de ses voisins. Le boycott le poursuivi tout au long de ces dernières décennies. Et le boycott n'a pas véritablement d'impact sur l'économie israélienne. Je ne crois pas que cette liste qui a été publiée récemment ait un impact plus important que ne l'a eu par le passé.
Un mot encore, Jacques Bendelacht, sur la devise israélienne. Je lisais quelque part qu'elle s'est appréciée de 15% en un an par rapport à l'euro.
Oui, 15%. Absolument. Alors, c'est une des fiertés de l'Israélien, parce qu'effectivement, le pays est très attractif pour les investisseurs étrangers du fait de l'inflation très très faible, du fait de la solidité de son économie. Et donc, les devises affluent, les capitaux étrangers affluent, les investissements étrangers affluent. L'année dernière, nous avons battu un record d'investissements étrangers avec 10 milliards de dollars qui sont arrivés en Israël. Et donc, l'afflux de capitaux, eh bien, ça renforce le shekel. Ça s'est passé la dernière année. Ça va, à mon avis, encore se poursuivre cette année du fait que nous allons vers une le gaz que nous avons trouvé ces dernières années va être exploité très fortement l'année qui vient.
Donc le gaz sous-marin, dans les zones exactement attribuées à Israël.
Il a été découvert au large des côtes méditerranéennes, et donc l'exploitation de ce gaz va faire aussi rentrer des devises, va renforcer la confiance des étrangers, et tout cela est quelque chose de très favorable à la monnaie nationale. Alors il faut le dire aussi, le renforcement du shekel, ça favorise le consommateur qui consomme beaucoup de produits importés de l'étranger. En revanche, ça défavorise l'exportateur qui, lui, a du mal à vendre ses marchandises qui sont chères à l'étranger. Et ça va être un problème pour l'économie israélienne qui est en fait très tributaire de ses exportations et de ses débouchés extérieurs. Et ça, on va commencer à le sentir prochainement.
Denis Charby et Sami Cohen, qui participaient donc cette discussion avant votre propre intervention, Jacques Bendelacht, entrevoit la possibilité en fait d'un nouveau blocage à l'issue de ce scrutin du 2 mars. Vous croyez-vous qu'une majorité politique peut sortir des urnes la semaine prochaine ?
J'ai du mal à y croire, avec l'expérience de ces dernières élections, de ces deux dernières élections, je crois que la situation risque d'être encore bloquée et que nous irions sans doute vers une quatrième échéance, ce qui serait bien sûr très négatif pour l'économie israélienne sous certains aspects, mais je ne suis pas très optimiste non plus de ce côté-là.
Merci mille fois d'avoir été au téléphone avec nous, Jacques Bendelacht. Sami Cohen, donc il semble que vous êtes, vous trois, qui analysez la société israélienne, les partis politiques, l'activité économique. En fait, vous êtes d'accord que le système politique est devenu tellement bloqué, comme vous le disiez tout à l'heure, pas de dynamique possible, d'où pourrait venir le grain de surprise le 2 mars prochain, le taux d'abstention jouant contre l'un, contre l'autre.
Et il peut y avoir deux éléments de surprise. Le premier, c'est qu'il y a à la fois des abstentionnistes, mais il se peut qu'il y ait des déplacements de voix, parce qu'il ne faut pas oublier que entre l'élection d'avril et l'élection de septembre, Benjamin Netanyahu a perdu entre 6 à 8 sièges qu'il essaye de récupérer actuellement. Ce mouvement, on pourrait imaginer, qui pourrait s'amplifier. Et donc, c'est une des possibilités de surprise. L'autre possibilité de surprise, c'est que l'actuelle situation politique ne bénéficie pas forcément à Lieberman et profite justement à Benjamin Netanyahu. C'est une possibilité.
En gros, tout reste ouvert.
Oui, il y a eu des surprises dans le passé. Il ne faut pas les écarter. Le troisième élément, c'est un élément que je rappelais tout à l'heure, c'est s'il y a un recours à la Cour suprême et si la Cour suprême décide, on n'est pas sûr qu'elle va le faire, si elle décide que le Premier ministre inculpé ne peut pas former un gouvernement.
Mais à ce moment-là, Netanyahou peut mettre en avant des hommes. Il y a quelques femmes maintenant, et notamment une dame qui s'occupe de la culture, je crois, qui est dure. Oui. Il peut mettre en avant des hommes et des femmes, et lui rester en arrière-plan et néanmoins continuer à dominer le jeu.
Oui, non, mais si Benjamin Netanyahu ne peut plus former un gouvernement, la situation est résolue. Parce que la position de Bleu-Blanc et de Benny Gantz est, qui sont favorables à une coalition avec le Likoud, sont Benjamin Netanyahu. Si Benjamin Netanyahu est abattu, l'impasse est résolue. On est dans une formation coalition bleu-blanc et Likoud à coup sûr.
Denis Charby, vous êtes d'accord avec ce scénario qui serait donc évidemment au détriment d'un Netanyahou qui, il faut le rappeler, va devoir répondre devant la justice des accusations dont lui et son épouse d'ailleurs font l'objet. En fait, paradoxalement, le meilleur scénario pour le Likoud, ce serait une coalition sans Netanyahou.
Oui, à ceci près que la loyauté des députés et des électeurs du Likoud est telle qu'il est difficile d'envisager une sorte d'insurrection contre Netanyahou. Moi, il y a une chose qui me paraît très claire. Ce ne sont pas les électeurs israéliens qui entendent faire la différence. Ils votent comme ils ont déjà voté au mois d'avril et au mois de septembre dernier, à peu de choses près. Et donc, c'est aux politiques de prendre leurs responsabilités. Et on verra d'où ça vient. Ça peut être également les partis qui actuellement de droite et les partis religieux qui font bloc autour de Netanyahou, qui peuvent dire on est resté loyal pendant deux scrutins. La troisième fois, une quatrième fois serait impardonnable. Les acteurs politiques ne sont pas dépourvus d'une possibilité de débloquer le blocage actuel, mais c'est vrai qu'ils devront le faire au détriment des promesses vis-à-vis desquelles ils se sont engagés durant la campagne électorale.
Mais ça, bon, on sait dans nos démocraties que les promesses, comme disait Jacques Chirac, ne concernent que ceux qui y croient. Jusqu'à quel point est-ce que cette dynamique politique qui, pour le moment, dans cette campagne atone, comme vous le disiez dès le début de cette émission, cette dynamique est absente. Il n'y a nulle part dans l'opinion publique une société civile qui pousserait les acteurs politiques à sortir de ces jeux de rôle qui n'en finissent pas.
Alors c'est vrai que ce qu'il y a de très étrange, hein, c'est finalement l'apathie non seulement de la société civile, mais je dirais même de l'opinion publique. On l'a vu se soulever en 2011 contre la vie chère. On pourrait imaginer que après un troisième tour, s'il conduit au même blocage, eh bien, ils aillent dans la rue pour dire trop c'est trop. Parce que il faut bien comprendre, si l'opinion publique israélienne a toléré cet état de fait, c'est parce qu'on n'en a pas encore ressenti, je dirais, les effets économiques économique. Tout fonctionne, hein. On travaille tous les jours. Je veux dire, la crise politique apparaît comme ça. Je dirais une crise médiatique. On l'entend quand on ouvre son poste de télévision ou son poste de radio ou sur la toile, mais autrement on ne la sent pas. Il est probable, en revanche, que faute de budget, au bout d'un an, il y a énormément de projets qui n'aboutissent pas parce qu'il n'y a pas de décision qui est prise. Il n'est peut-être pas inconcevable à ce moment-là que l'opinion estime que trop c'est trop et que si la classe politique ne prend pas ses responsabilités en mettant fin aux promesses devant lesquelles ils se sont engagés devant leurs électeurs, eh bien à ce moment-là on entend une parole disant voilà, il faut faire quelque chose, on ne peut pas continuer comme cela, parce que c'est vrai que c'est une situation totalement inédite dans le système parlementaire israélien, qui effectivement un système proportionnel assez qui pose des problèmes en tant que tel, mais n'a jamais abouti à cette paralysie à laquelle on assiste aujourd'hui.
Une toute dernière question, Denis Charby, jusqu'à quel point l'obsession sécuritaire parfaitement fondée, quand on sait la proximité des missiles du Hezbollah pointés sur les grandes villes israéliennes, quand on sait bien évidemment l'obsession de l'Iran, l'Iran qui vote pour renouveler son propre parlement et qui va sans doute renforcer d'ailleurs l'emprise des conservateurs, jusqu'à quel point est-ce que l'argument sécuritaire de part et d'autre reste obsessionnel?
Alors, il reste très clair, très important pour les électeurs du Likoud. Je crois que la force de Netanyahou, c'est d'apparaître aux yeux de ses électeurs comme indispensable, au point de penser que s'il n'est pas Premier ministre, eh bien tout, la situation ira à volo. Ce n'est pas ce que pensent, bien entendu, tous les autres. On sait que sur les problèmes de sécurité, il y a un consensus général, et c'est pas quand même un ancien chef d'état-major qu'on peut soupçonner d'être, on va dire, indulgent ou peu au courant des défis sécuritaires qui se présentent devant Israël, mais on peut pas dire en tout cas que lors de cette campagne électorale, ces impératifs-là, le Hezbollah, le Hamas, l'Iran, n'ont pas joué là où ils ont pu jouer un peu plus dans des élections précédentes.
Eh bien, merci mille fois à vous, Denis Charby, maître de conférence à l'Open University de Tel Aviv. Vous avez écrit « Israël et ses paradoxes » publié au Cavalier Bleu en 2018. Merci à vous, Sami Cohen. Vous avez signé le chapitre concernant Israël dans le très bon ouvrage collectif « Les populismes au pouvoir » dirigé par Alain Dikoff et Christophe Jaffrelot aux presses de Sciences Po, bien sûr. Merci à Rob Mallet, qui dirige Crisis Group. Merci à Jacques Bendelak, chercheur en sciences sociales à Jérusalem. Vous avez signé, Monsieur Bendelak, Israël, mode d'emploi, aux éditions Plein Jour en 2018. Et je n'oublie pas, bien sûr, Sarah Daoud, chercheuse aux séries de Sciences Po, qui était avec nous par téléphone du Caire et qui a écrit « L'adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale » publié chez L'Harmattan en 2018. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique, Jacques Hubert. Hugo Boursier a préparé cette émission, comme chaque semaine, et comme chaque semaine, encore une fois, nous sommes samedi, et bien vous avez rendez-vous avec Hervé Gardette. Très bon week-end, à samedi prochain.